Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Le magazine Okapi Service se produit en direct de la salle Paradis M sur l'ex 24 novembre, sur l'avenue de la Libération, ex 24 novembre, en face de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Nous allons retrouver tout à l'heure toute l'équipe d'Okapi Service pour cette édition spéciale depuis la salle Paradis M. Je dis Daniel Kachama à vos antennes.
Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à tous sur Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver en direct de la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération, ex 24 novembre. Alors, au menu de cette émission spéciale, nous allons parler des normes à respecter dans la construction des ouvrages. Et nous avons sur ce podium Monsieur Claudien Moulimiloa, président de la Société des architectes du Congo. Monsieur Claudien, bonjour. Voilà, nous avons également sur ce plateau Monsieur Dieudonné Massanka, ingénieur en technique spéciale. Bonjour. Et j'ai également à mes côtés Monsieur Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette émission spéciale. Et dans la deuxième heure, nous allons parler du rôle de l'ingénieur civil dans le développement de la République démocratique du Congo. Comme invité, nous aurons Monsieur Charles Meda Ilunga, ingénieur civil en construction et directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Jean-Bernard Chassouma, ingénieur civil mécanicien, et Munga Lembe, ingénieur civil mécanicien et directeur des études et développement à la CGT. Voilà ainsi présenté le menu de l'émission Okapi Service de ce jour. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Et merci à toute l'équipe de production, Sylvain Matundu, Sylvain Baougouere, Nico Kalambay, Tati Mapuku, Nounungoy. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama.
Parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Bien, merci à vous de participer à cette émission de la vie au quotidien en direct de la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération, ex 24 novembre à Kinshasa. Et merci à tous les 24 millions d'auditeurs qui nous suivent partout à travers la République démocratique du Congo. Et merci à vous qui nous écoutez à l'étranger sur www.radiookapi.net. Quelles sont les normes à respecter dans la construction des ouvrages? Vous savez, la RDC connaît un boom immobilier sans précédent au cours des 10 dernières années. Des immeubles ainsi que d'autres ouvrages sortent de la terre à Kinshasa, tout comme dans les autres villes du pays. Cependant, les normes de construction sont parfois bafouées par certains constructeurs. Conséquence, on assiste de plus en plus à l'effondrement des immeubles. Le dernier cas en date s'est produit au mois d'octobre dernier dans la commune de Kassavubu. Alors, quelles sont les normes à observer dans la construction des ouvrages? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie de l'émission avec nos invités. Monsieur Claudien Moulimiloa, vous êtes président de la Société des architectes du Congo. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, dites-nous, quelles sont les normes à respecter dans la construction des ouvrages? Merci. Des immeubles particulièrement.
Merci. Premièrement, les normes à respecter. J'aimerais remercier Radio Okapi pour cette opportunité de parler au public, au peuple congolais et tous ceux qui nous suivent. Je pense que la première norme dans un pays, c'est la loi. Et la première de ces lois, c'est la Constitution. Nous devons respecter donc les lois qui régissent les secteurs dans notre pays, ainsi que les textes réglementaires. Et en ce qui concerne la construction particulièrement, donc les dispositions légales et réglementaires disposent à ce qu'un projet de plus de 150 mètres carrés soit fait par un architecte et qui devrait demander une autorisation ou un permis de construire selon la dernière correction ou le dernier amendement de l'acte portant permis de construire. Mais alors souvent il y a une confusion quand on parle d'architecte, c'est qui l'architecte? Je saisis cette opportunité pour réellement donc donner la précision par rapport à cela pour que nous ne puissions pas être continués dans cet amalgame. Départ, les lois internationales ou l'accord de l'Union des architectes, l'Union internationale des architectes et l'UNESCO, l'architecte est défini comme si. Un architecte est généralement, le terme architecte est généralement réservé par la loi ou la coutume à une personne qui est professionnellement qualifiée et diplômée, qui est généralement inscrite et autorisée à exercer l'architecture dans la juridiction dont elle relève et qui est soucieuse de promouvoir le développement durable et équitable, ainsi que le bien-être et l'habitat en tant qu'expression culturelle de l'espace, des formes, ainsi que du contexte historique.
Voilà ce qu'est un architecte. Le terme beaucoup plus simple, c'est qui est un architecte?
D'une manière plus simple, un architecte, donc c'est lui, c'est une personne qui est diplômée, donc il a suivi un cycle de formation reconnue par l'Union internationale des architectes ainsi que l'UNESCO et qui est inscrite. J'insiste beaucoup sur cela. Un architecte, c'est pas quelqu'un simplement qui a le titre, mais au-delà de ce titre, il doit être inscrit à un tableau et donc soumis à une déontologie.
Bien, vous avez dit la première norme à respecter, c'est la loi. Il faut respecter la loi avant de commencer à construire. Il faut un permis de construire. Alors, comment expliquez-vous qu'il y a déjà, on dénombre déjà plusieurs bâtiments qui se sont écroulés à Kinshasa? Est-ce qu'on peut dire que ces constructions ont été faites sans avoir obtenu au préalable le permis de construire?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Au fait, il y a beaucoup de raisons qui font que les bâtiments s'écroulent. Et nous saisissons encore une fois pour présenter nos condoléances aux familles éprouvées. La vérité, c'est que nous attendons que la commission qui devrait rendre tous les détails par rapport au dernier effondrement du bâtiment puisse nous donner la lumière. Mais est-il que dans la pratique, la plupart des Congolais construisent dans l'autoconstruction sans pour autant avoir le permis de construire? C'est pas un secret. Et quand il y a des permis de construire, des fois, ce permis n'est pas respecté. Et pour le cas d'espèce, il y a suffisamment d'éléments. On n'aimerait pas faire ombrage donc à la justice pour voir effectivement que le bâtiment qui a été construit, quand bien même il a été fait, il a pu obtenir un permis sur base d'une esquisse préliminaire, d'une esquisse donc d'embryon, obtenir un permis de construire sur un bâtiment à R+2 et finalement il y a eu 5 étages qui ont été construits sur ces bâtiments. Donc le permis de construire pour ce cas d'espèce n'a même pas été respecté quand bien même qu'il a été autorisé.
Bien, monsieur Dieudonné Massanka, vous êtes ingénieur en technique spéciale. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire, un ingénieur en technique spéciale?
Ah, merci beaucoup.
Veuillez vous rapprocher du micro. Voilà.
Nous avons commencé par la présentation de l'architecte qui pratiquement nous a informé et nous a dit ce que c'est qu'un architecte. Mais comme vous le savez, dans le domaine du bâtiment, il n'y a pas que l'architecte qui fait son travail. Il a fait son étude, il a conçu son bâtiment. Il faudra que ce bâtiment existe et fonctionne. Et donc, l'ingénieur en technique spéciale vient en apport, n'est-ce pas, à l'architecte pour pouvoir réaliser et finir sa mission conformément aux normes et réglementations. Et donc, le technique spécial ici, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des techniques qui viennent donner, je dirais, vie à un immeuble, à un bâtiment, afin que ce dernier soit habitable ou vivable.
Et là, vous faites allusion à quoi exactement?
Alors, je fais allusion à l'électricité, par exemple, l'électricité, la climatisation, la ventilation, la plomberie, le système de protection incendie, qui malheureusement chez nous c'est très négligé. Vous avez, au jour d'aujourd'hui, on parle de le réchauffement climatique. Et en passant, je vais vous dire que le gaz à effet de serre qui pollue aujourd'hui l'environnement, 35% provient du domaine du bâtiment. Et donc, il est très important que lors des conceptions de projets, que l'ingénieur en technique spéciale prenne, n'est-ce pas, la responsabilité de faire un projet qui s'intègre aussi dans la protection de l'environnement. Voilà.
Bien. Nous retrouvons M. Michel Ouyumbu. Vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Alors, dites-nous quel est le rôle des ingénieurs BTP dans la construction des immeubles et qu'est-ce que vous faites exactement pour qu'il y ait des bâtiments construits en normes.
Merci beaucoup. L'ingénieur BTP, c'est un spécialiste qui assume la conception de la stabilité pour les cas du bâtiment, par exemple. Il connaît bien les études du sol qu'il doit pouvoir mener. Il connaît bien les reports de charges qui doivent supporter tous les éléments des structures. Il va les dimensionner, commençant par les fondations, la superstructure, de manière à ce que l'immeuble soit stable. Donc, il agit sur trois axes. Il agit sur la sécurité des occupants, il agit sur la stabilité de l'ouvrage et il agit sur l'économie des matériaux. Ça, c'est dans le domaine des bâtiments. Mais l'ingénieur du bâtiment et travaux publics, c'est bien dit bâtiment et travaux publics, il ne s'arrête pas seulement dans le domaine du bâtiment. Il intervient dans le domaine des ponts, il conçoit des ponts, il intervient dans le domaine des routes, il intervient aussi dans le domaine des constructions hydrauliques, construction de barrages, écluses, et il assume, dans le domaine des travaux publics, il est le concepteur en chef. Dans le domaine du bâtiment, il est évident que l'ingénieur du bâtiment et des travaux publics doit travailler avec un architecte qui est le concepteur du bâtiment, mais il y a des aspects du bâtiment qui relèvent uniquement de l'ingénieur du bâtiment et des travaux publics. Les aspects stabilité et les aspects sécurité de cet ouvrage.
Voilà. Alors, tout à l'heure, Monsieur Claudien Moulin-Millois nous a parlé des normes à respecter dans la construction. Il a dit, par exemple, que la loi, il faut obtenir le permis de construire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport aux normes?
Non, mais c'est, messieurs les journalistes, je voudrais vous dire que je suis membre de la Commission africaine de normalisation. Je représente le pays au niveau de ce qu'on appelle THO3, ASSO, c'est qui est l'Organisation africaine de normalisation, qui est basée au Kenya. Je suis membre de THO3, c'est-à-dire le Technical Harmonization Committee. C'est nous qui élaborons les normes africaines de construction et de génie civil.
Quelles sont ces normes à respecter?
Dans le domaine, je prends l'aspect normes, tout simplement normes de construction. Parce que l'architecte Claudia a parlé de normes à ce qui concerne la conception. Les normes sont très variées, messieurs les journalistes. Vous avez d'une part les normes dans la conception même du bâtiment, dans son fonctionnement. Ça, c'est le travail de l'architecte. Mais vous avez des normes dans le dimensionnement de ces bâtiments-là pour assurer sa stabilité. Ça, c'est le domaine de l'ingénieur. Mais vous avez aussi les normes dans la mise en œuvre et l'exécution des travaux. Ça, c'est encore le domaine de l'ingénieur. Je suis désolé, j'ai saisi cette opportunité pour rappeler à tout le monde que notre pays n'a pas un organe de normalisation.
Il n'y a pas de normes ici chez nous.
Il n'y a pas un organe de normalisation. Je voudrais qu'on soit clair. Le Congo n'a pas un organe de normalisation. Ce qu'on appelle dans notre pays le standard bâti. Nous n'en avons pas. Et il y a une loi qui est en étude au Parlement. Nous sommes désolés, la loi est bloquée.
Cela veut dire qu'on construit sans respect des normes chez nous.
Je vais avancer. Il y a une loi qui est en discussion au Parlement, la loi sur la métrologie et la normalisation, que nous attendons de pied ferme. Cette loi n'a pas encore été promulguée, elle est en discussion. Donc le Congo a une difficulté majeure. Mais c'est Claudia a parlé d'un homme à ce concerne l'architecture. On devait avoir un organe de normalisation au pays qui va pouvoir édicter le norme, parce que jusque-là, nous sommes en train de parler de normes internationales. Non, il n'y a pas un seul pays au monde qui utilise les normes internationales. Les normes, mais quand vous prenez les Eurocodes, qui sont les normes européennes, il y a ce qu'on appelle les annales spécifiques pour les pays. Nous n'en avons pas. Il n'y en a pas, monsieur.
D'accord. Monsieur Claudien, lorsque vous construisez des bâtiments, il semble qu'on n'a pas assez de normes ici chez nous. Alors, comment vous faites?
Oui, monsieur le journaliste, je vous ai dit effectivement que nous commençons sur le plan de la normalisation en respectant d'abord la constitution et les lois du pays lorsqu'elles existent. Et lorsqu'elles n'existent pas, je suis d'accord avec monsieur Michel que nous nous reportons donc aux normes internationales. Malheureusement, donc dans la plupart des projets, nous concevons selon les normes. Je vous ai cité ici la définition déjà de l'architecte selon la loi, selon l'accord Union internationale des architectes UNESCO. Vous voyez, et cette définition devait être reportée sur une loi pays, et nous espérons bien que ceux qui ont en charge effectivement de légiférer puissent un jour s'attarder et réglementer cette question-là.
Par exemple, ici chez nous, on voit des immeubles poussés à côté des maisons basses, et c'est pas très beau à voir. Peut-être que les urbanistes aussi devraient les associer. Il y a des immeubles qu'on construit qui n'ont pas de parking. On ne sait pas où parquer, et même des immeubles, des constructions qui n'ont pas de toilettes. Alors, comment expliquez-vous tout cela?
Oui, nous expliquons effectivement les désordres dans ces secteurs. Ce n'est pas la première fois, nous ne sommes pas opportuns, nous sommes constants depuis la Société des architectes du Congo. J'ai été élu pour la première fois depuis 2008, et nous répétons ces choses-là. Ce secteur n'est pas, à ce jour, géré. Le secteur de l'urbanisme apparaît comme si il est le reste de la division des postes politiques. Mais il y a réellement nécessité de vraiment d'organiser ce secteur. Donc vous parlez effectivement donc de cette norme, je pense bien, c'est ce que nous appelons le plan particulier d'aménagement. Normalement, quand on doit obtenir le permis de construire, le permis devrait se donner sur base d'un plan directeur. Or, quand nous regardons le pays, les derniers plans directeurs ont été laissés par les Belges dans les villes qu'ils avaient construites à l'époque coloniale. Et il y a eu quelques tentatives, mais malheureusement, même pour les Kinshasa, le SOSAC, le schéma d'orientation stratégique qui a été promulgué par la ville, n'est pas respecté, ne couvre pas toute la ville de Kinshasa. Et donc, le permis se limite simplement à avoir des effets ou des effets pécuniaires, de voir seulement l'argent donc par rapport à une surface bâtie.
Alors, des questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Par rapport à cette thématique, nous parlons des normes à respecter dans la construction des bâtiments et des autres ouvrages. Oui, votre nom, vous donnez juste le nom et posez la question.
Voilà, le nom c'est Dieu merci Pakingoulo. Je suis l'étudiant Lizipa. En fait, je n'ai pas bien saisi dans ce que nos intervenants venaient de dire. Ma question est de savoir quel est le rôle d'un architecte. Et précisément, il intervient comment dans, disons, la conception. Voilà, et puis, ma question.
D'accord. D'autres questions? Oui.
Question ici, Jody.
D'accord.
C'est Willy Founi, architecte. Ma question s'adresse au président de la coopération des ingénieurs BTP. Je voudrais savoir quelle est la différence, parce que quand il a défini son rôle, j'ai semblé retrouver le rôle d'un ingénieur civil. Parce que moi, je sais que l'ingénieur BTP, il est spécialiste dans l'exécution. Alors, quelle est la part de l'ingénieur civil et quelle est la part de l'ingénieur BTP?
Merci. D'autres questions?
Pas encore ici.
Merci. Je suis Monsieur Justin, là, architecte. Ma question est plus tournée vers l'organisateur de cette séance. J'aimerais vous proposer pour une prochaine séance d'avoir les intervenants dans le domaine de la construction. C'est-à-dire, il faut avoir l'autorité présente dans cette salle, il faut avoir les architectes, il faut avoir un représentant des consommateurs, il faut avoir un ingénieur, tous ces participants qui rentrent dans les contextes du bâtiment. Et même parfois faire venir le fabricant des matériaux de construction. Alors là, nous allons avoir une discussion holistique du problème de la construction.
L'invitation a été lancée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions, Nounou, de l'autre côté?
Oui, moi c'est Mbona Mossi. Je suis candidat ingénieur civil.
Oui.
Je veux poser la question à l'ingénieur de bâtiments et travaux publics qui a donné en fait ce qu'il est en fait. Ce que moi je veux poser comme question, c'est la source de dire d'où il tire ça. Enfin, qui lui donne la latitude de dire que enfin qu'il fait ça en fait. C'est parce que à mon sens, c'est réglementé tout ça.
D'accord, merci. Monsieur Claudien, vous avez la parole.
Ok, merci monsieur le journaliste. Le rôle d'un architecte, c'est de concevoir le plan d'un bâtiment. Et comment il le fait par rapport à la question qui m'a été posée par notre ami de l'ISIPA. Et comment il le fait quand vous êtes un promoteur immobilier ou vous avez un peu d'argent, vous voulez faire construire votre maison. Donc, vous acquérez un terrain, un lopin de terre, dans une cité ou un quartier, et vous allez voir un architecte. L'architecte va vous conseiller selon votre programme que vous allez amener, ce que vous voulez faire. Et il va transformer vos idées en un plan qui soit cohérent. Et sur base de ce plan-là, l'architecte va voir la nécessité de collaborer avec d'autres corps de métier. Et notamment, donc dès que vous acceptez au niveau des esquisses préliminaires, l'idée qui a été transmise sous forme donc, d'une expression culturelle, d'une une expression artistique par rapport à votre demande, il va aller voir ou solliciter les études de sol pour voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens font du copier-coller, mais chaque terrain a des caractéristiques spécifiques selon sa capacité. Alors, il va recommander effectivement ses études de sol pour lui donner des capacités ou les données techniques par rapport à la portance de votre terrain. Et avec cela, avec d'autres corps de métier comme les ingénieurs, il va aller voir pour dimensionner ce qu'il aura déjà supposé. Moi, quand je fais ma conception, j'ai une idée de ma structure. Je fais un prédimensionnement selon ce que je voudrais avoir comme forme de structure. Et avec les données du terrain et le travail de l'ingénieur qui va m'aider à dimensionner, à donner réellement les dimensions exactes par rapport à cette structure pour que ce bâtiment puisse répondre réellement donc aux normes en fonction. Encore une fois, on revient à la normalisation de l'usage qui sera affecté à ce bâtiment.
Donc oui, voilà plus ou moins. Monsieur Claudien, je m'en vais rapidement lire la réaction d'un auditeur qui nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service, Bernard Lukombo à Kinshasa. Il dit, le pire c'est que quand on fait les tours des chantiers qui fleurissent ça et là dans la ville de Kinshasa, ce sont les architectes qui construisent, ils sont eux-mêmes concepteurs, ingénieurs des structures, conducteurs des travaux. Alors faisons tout pour combattre ces fléaux, travailler en synergie pour réussir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Bernard?
Oui, je réponds que malheureusement, c'est pas évident quand on voit que tout ce qui fleurit dans la ville de Kinshasa ou les bâtiments qui fleurissent sont l'œuvre des architectes. Je doute fort. Parce que comme j'ai dit, l'architecte est celui qui est diplômé et qui est inscrit et il sait réellement le domaine ou la limite de ses compétences. Donc les architectes travaillent effectivement en collaboration et en synergie avec les ingénieurs pour les dimensionnements. Donc pour preuve, nous sommes assis sans tabou avec des ingénieurs, techniciens, en technique spéciale ou en structure ou en stabilité. Donc dans le cas de notre travail, nous collaborons réellement. Mais malheureusement, il y a des intrus dans la profession, il y a des amis de l'Académie des Beaux-Arts, il y a même des maçons qui ont hérité de leurs parents, je sais pas moi, certains Truel, ainsi de suite, qui à la cité se font passer pour architectes. Ça, ces désordres-là ne relèvent pas des architectes.
Voilà, ces désordres-là ne relèvent pas des architectes. Il y a aussi d'autres questions adressées à monsieur Michel Ouyumbu. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Permettez, monsieur le journaliste, que je prenne un peu du temps. Je vais prendre un peu
de temps. Non, ne prenez pas beaucoup de temps. Soyez bref dans vos interventions.
Je suis désolé. Oui. Je vais remonter à la genèse de la formation de l'ingénieur BTP. Nous sommes en 1961. Le pays, le Congo, venait de devenir indépendant et le pays manque cruellement de cadres dans le domaine de la construction. C'est ainsi qu'en 1961, le président Kassavubu va signer une ordonnance numéro 84 portant création de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Et la mission qui a été confiée à cet institut, c'est de former des spécialistes dans le domaine de la construction. Et ce projet, monsieur le journaliste, a été implémenté avec l'aide de l'UNESCO. L'UNESCO a jugé bon d'importer au Congo à cette époque-là la formule française des ingénieurs du BTP. Les ingénieurs du BTP n'est pas une création du Congo, mes chers amis. Vous allez en France, vous trouverez des grandes écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs du BTP.
La question était de savoir quelle est la frontière, la limite entre l'ingénieur civil.
Je suis en train d'arriver.
Oui.
Quand vous consultez les sites de l'UNICEF en France, qui donnent des renseignements sur les différentes professions, je vais vous lire, mon cher ami, ce qui est écrit là-dedans. L'ingénieur du BTP, ultra qualifié en sciences et techniques, est un cadre qui travaille en équipe et prend des décisions, assume des responsabilités au sein d'une entreprise. Il a pour mission de développer les infrastructures d'une région. Il conçoit les ponts, les barrages, le bâtiment et les routes. Ça ne vient pas de moi. C'est ça l'ingénieur du BTP. Je suis un peu en difficulté parce que nous avons une formation de nos collègues ingénieurs civils qui est une importation belge. C'était là que c'est venu. En Belgique, vous avez les ingénieurs industriels d'une part et les ingénieurs civils de l'autre côté. Nous, nous ne sommes pas en Belgique. Nous sommes
alors maintenant, où se trouve la frontière
donc,
entre les...
La difficulté. Et oui. Pour le Congo, voilà ce qui a été fait pour le Congo. L'ingénieur civil, des filières différentes, je vous informe, mon cher ami, que c'est une appellation belge et qui n'existe qu'en Belgique et dans ses colonies. L'ingénieur civil veut dire tout simplement ingénieur de génie civil. Mais en Belgique, vous avez des ingénieurs civils en mathématiques appliquées, vous avez des ingénieurs civils dans tous les autres domaines, même en informatique de gestion.
D'accord.
C'est une formulation
alors,
belge.
D'accord, on ne va pas entrer dans ces débats.
Je vais revenir maintenant sur
revenons
le Congo.
Revenons au thème de l'émission. Nous parlons des normes à respecter dans la construction des ouvrages. Alors, je m'en vais rapidement, je donne la parole à M. Dieudonné Massanka, ingénieur en technique spéciale. Qu'est-ce que pouvez ajouter à ces sujets?
Alors, ce que je peux ajouter à ces sujets, c'est que vous comprenez tous qu'il y a nécessité dans notre pays que l'on puisse avoir des normes. Sans normes, on ne peut rien faire. Je prends les cas des techniques spéciales aujourd'hui. La plupart des études qui se font dans techniques spéciales, je prends les cas de la climatisation par exemple, on se réfère à la norme HRE, qui est la norme américaine. Quand vous allez dans l'électricité, on se réfère soit à la norme française, qui est la NFC 1500 pour le dimensionnement des ouvrages dans le bâtiment. Et quand vous allez dans la plomberie, on va se référer encore soit au DTU ou à d'autres normes qui sont internationales. Donc il est important au jour d'aujourd'hui que nous puissions avoir, n'est-ce pas, les normes adaptées dans le contexte congolais. Voilà.
Quelles sont ces normes? Par exemple, aujourd'hui, nous avons des bâtiments qui s'écroulent, des bâtiments qui sont construits sans respect de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, M. Dieudonné?
Alors, premièrement, je pense que la responsabilité, elle est partagée entre les promoteurs immobiliers et leurs professionnels que nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, il y a des promoteurs immobiliers qui, au lieu d'utiliser ceux qui sont qualifiés à pouvoir faire le travail, ils estiment que non, utiliser un architecte, ça coûte très cher. Utiliser un ingénieur qui va faire les calculs de structure, ça lui coûte très cher. Ben, c'est très compliqué. Imaginez.
Est-ce que c'est vrai que vous faites payer un peu trop cher?
Bon, écoutez, les études, je crois qu'il y a une norme en fonction des études, en fonction des montants qui doivent être demandés. La conception d'un ouvrage demande beaucoup aux ingénieurs et aux architectes. C'est prendre les idées de quelqu'un et les transformer dans quelque chose, ça relève du domaine du génie. Et donc, ce n'est pas aussi coûteux que ça. Vous comprenez, ce n'est pas aussi coûteux que ça. Prenons l'exemple de ces bâtiments qui s'étaient écroulés. Imaginez qu'une fois les études étaient faites correctement et que lors de l'exécution des travaux, ils ont respecté les normes qui ont été utilisées. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de déplorer les morts.
Mais il semble que parfois les études sont bien faites, mais le propriétaire du bâtiment vient et dit non, je change d'idée, c'était deux niveaux, maintenant on va à trois et vous faites ce que je vous dis. Sinon, je prends d'autres personnes.
En responsabilité, en tant qu'ingénieur, je dirais, madame, en fonction d'une étude qui a été faite, du moment où vous décidez de pouvoir changer quelque chose ou ajouter ou supprimer quelque chose, il est tout à fait normal de refaire une étude. Prenons un exemple, un bâtiment qui a été étudié pour pouvoir abriter un hôtel. Je prends le cas de l'électricité. Le facteur de foisonnement pour le dimensionnement des équipements qui rentrent dans ces fonctions de ces bâtiments qui doivent être affectés à un hôtel, ce n'est pas le même facteur de foisonnement que si c'était un bâtiment à usage résidentiel. Alors, du moment où l'utilité de l'ouvrage change, il est important de refaire ou de corriger les études en fonction de l'utilité du bâtiment. Et ça, c'est ce que beaucoup de nos promoteurs ne veulent pas parce qu'ils se disent quoi? Soit il veut revenir à l'ingénieur pour qu'il refasse ses corrections, mais sans pour autant savoir que ces corrections auront des conséquences. Parce qu'il va refaire encore un autre travail qui doit être payé. Mais on veut que ça soit fait sans être payé, mais non. Et donc, quand il y a des changements lors de l'exécution d'un ouvrage, il est important à ce que l'on revienne sur les études afin de le mettre à jour. C'est la raison pour laquelle un projet qui a été étudié dans un bureau d'études, lors de l'exécution, il y a la production de ce qu'on appelle les S-Built. Ça veut dire le plan qui seront réalisés en fonction de l'évolution du projet sur le chantier.
Voilà. D'accord. Des questions dans la salle par rapport à ce qui a été dit? Oui, de l'autre côté, Tati.
Merci beaucoup pour la parole.
Oui.
Moi, c'est Arnaud Biliki. Je suis candidat à ingénieur civil. En fait, ma question s'adresse au président de la corporation des ingénieurs BTP. Premièrement, d'abord, je suis surpris de constater qu'il n'a établi aucune différence entre un ingénieur civil et un ingénieur BTP. Et puis, à ma connaissance, l'ingénieur civil, ce n'est pas seulement un terme qui vient de la Belgique. Par exemple, en Suisse, on a des ingénieurs civils qui sortent des écoles polytechniques fédérales, qui sont des ingénieurs civils de catégorie A, et des ingénieurs civils de catégorie B qui sortent des écoles, des hautes écoles spécialisées, notamment des IN, comme l'INBTP. Alors, moi, ma question, c'est par rapport au contenu de sa formation. Pensez-vous vraiment qu'un ingénieur BTP, par rapport à sa formation, est-il capable de faire des grandes conceptions dans les domaines d'ouvrages de génie civil? Je vais prendre un exemple. Par exemple, en deuxième année graduée, où l'ingénieur civil a son premier cours de conception, c'est-à-dire la résistance des matériaux. À l'INBTP, nous constatons que dans cette même année, non seulement l'étudiant a ses cours de résistance des matériaux, mais il a aussi les cours de béton armé, qui est le matériau de construction le plus utilisé. Alors, nous pensons qu'en génie civil, l'étudiant ingénieur civil a déjà 70 heures de cours relatifs aux matériaux béton, alors qu'un ingénieur BTP, il n'en a que moins de 100. Alors, moi, ma question est de savoir, avec sa base, est-il capable de faire des grandes conceptions dans le domaine du génie civil comparativement à l'ingénieur civil qui est important non seulement au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de construction particulière dans des sites des caractéristiques spéciales.
D'accord, merci. D'autres questions? D'autres questions dans la salle? Il y a...
Oui, merci beaucoup. J'interviens par rapport au domaine de l'ingénieur civil.
Oui. Votre nom?
Je m'appelle Molangi Zaluka, ingénieur géomètre topographe.
Ok.
Dans tout le domaine, l'ensemble des domaines de construction, ce qui vient avant, c'est l'étude topographique. C'est la base de toutes les données dans le domaine du génie civil. Or, dans les domaines du génie civil, ça remonte depuis l'arpentage jusqu'à nos jours, puisque ce sont des militaires qui s'étaient plongés dans ce domaine-là. Alors que, vu le développement de tout ce qui a été, il se fait en sorte que les domaines s'est évolué jusqu'à atteindre les niveaux où nous sommes aujourd'hui en qualité des ingénieurs géomètres topographes. Par rapport à quoi? Puisque il y a la topographie lors du développement de la construction vit certaines choses qui se passent en ville. Les études de la topo n'est pas tenue en compte. Et le... Oui.
Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
J'aimerais savoir la place de l'ingénieur géomètre topographe dans le domaine du génie civil jusqu'à présent.
D'accord, merci. Une autre question? Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Victor Kitenge, candidat ingénieur civil de la faculté polytechnique. Ma question s'adresse à monsieur Michel. À l'attendre, il vient de souligner clairement que la RDC connaît une absence de normes en matière de construction. Et j'estime directement qu'il y a inexistence des principes de construction spécifiques et propres à notre pays. Je me dis directement que ma question maintenant est de savoir comment est-ce que vous, les ingénieurs de BTP, vous faites pour construire vos structures pour qu'ils tiennent face aux contraintes environnementales propres à notre pays, parce que j'estime que c'est les normes qui devaient détailler les contenus de vos bétons, la nature de pierre de vos bétons, la nature de barre de fer de vos bétons, pour que ça tienne face à la température, face à l'humidité, face à tout cela, pour que ça soit réellement solide et stable. Et j'aimerais aussi demander, vu votre formation telle que définie dans notre pays, quelle formation est-ce que vos institutions qui forment des cadres de l'INBTP ou ingénieurs de l'INBTP donnent comme formation afin de répondre valablement à ces questions, en différence aux ingénieurs civils qui sont eux, qui étudient par exemple des cours.
Soyez bref, hein, dans votre intervention.
Qui est par exemple font des études approfondies et des recherches approfondies fondamentales pour comprendre les structures et proposer, vu bien entendu l'absence des normes, des principes à suivre pour pallier à ces soucis.
D'accord, merci Nico. De votre côté, y a-t-il des questions?
Merci, moi c'est l'ingénieur Alain Amouninga, je suis ingénieur BTP.
Oui.
J'ai deux questions en fait. Ma question première est adressée à M. Michel. En fait, où en sommes-nous avec le projet de loi relatif à la création de l'ordre des ingénieurs? Dans le même ordre d'idée, ce projet de loi d'ingénieurs concernera quel type d'ingénieur? Car nous risquons d'avoir une loi fourre-tout où les législateurs risquent d'être muets sur un certain nombre de questions, parce que nous nous rendons compte que cette différence entre l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP, c'est une boîte de Pandore que nous risquons d'ouvrir ici. Et si les législateurs n'apportent pas des questions spécifiques à la formation de tout un chacun, nous risquons d'avoir toujours ces genres de questions et de ces questionnements. Je me dis, c'est très très important, parce que la plupart des gens ne comprennent pas que l'ingénieur civil est formé pour la recherche, et par contre l'ingénieur BTP a un diplôme professionnel. Et aujourd'hui nous trouvons des ingénieurs civils qui sont directeurs d'approvisionnement quelque part et tout ça. Je me pose la question, cette dichotomie ou cette c'est du coq à l'âne qui est en train d'être fait actuellement sur le marché de l'emploi. Donc merci beaucoup.
Voilà, il y a du coq à l'âne. Voilà, une autre intervention. Bonjour, quelle est votre question? Votre nom et la question.
Oui, bonjour, je réponds au nom de Jonas Moutébois, étudiant en polytechnique électromécanicien finaliste. Bon, ma question, j'ai rejoint peut-être mon confrère qui a posé la question en premier, puisque je détiens devant moi la loi cadre de l'enseignement national, puisque je parle en tant qu'ingénieur civil. Et je veux faire une dissociation entre l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP. D'abord, de un, on a une institution et puis une université. Normalement, on a une loi cadre qui régit même le but poursuivi dans chaque domaine. L'université est ainsi une institution. Ici, on me dit que l'université ne forme que en pour but d'assurer la formation des cadres conceptuels. Je souligne bien conceptuel. Mais par contre, quand je prends l'article 28 sur les institutions, on dit les instituts supérieurs ont pour but de former des cadres scientifiques dans les domaines sciences et techniques. En l'occurrence, c'est-à-dire des techniciens. Alors, j'aimerais poser la question au responsable, le président de l'Association des Corporations Nationales des Ingénieurs BTP. Moi, je n'ai pas bien suivi cette distinction entre l'ingénieur BTP et l'ingénieur civil. Ici, déjà, si vous voulez mettre tous deux à pieds égales, c'est que vous partez à l'encontre même de but poursuivi dans les enseignements supérieurs et universitaires. Alors, essayez, noir sur blanc, nous éclaircir un peu à ces propos. Ou sinon, je vous conseillerais mieux d'aller consulter le législateur et proposer votre proposition pour essayer de mettre tous à pièces égales. Mais seulement, j'aimerais signaler aussi une chose. S'il vous plaît, j'aimerais signaler aussi une chose. L'ingénieur civil, ce qui fait de l'ingénieur civil cette appellation, ce n'est pas le nombre d'années qu'il est en train d'effectuer. Puisque le malentendu, c'est que aujourd'hui, le second cycle avec les institutions, nous faisons pratiquement le même nombre d'années. Mais ce qui fait de l'ingénieur civil cette appellation, c'est les contenus de ce qu'il a comme base. Je souligne très bien. C'est
voilà,
la raison
merci.
Pour laquelle
merci.
Je finis avec...
Merci pour votre intervention. Nous allons donner la parole à nos invités qui sont là. On commence avec Monsieur Claudien.
Oui, merci. J'aimerais moi recadrer donc le débat afin que nous puissions éclairer le public. Donc, avant que nous ne rentrions dans cet échange sur l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP, la question fondamentale était d'éclairer le public par
sur
rapport aux normes des constructions.
Voilà.
Pour voir comment nous pouvons construire et aider les publics. N'oublions pas cela. Et si il y a nécessité, donc je demanderai à Radio Okapi d'organiser une émission pour clarifier cette question-là. Donc j'aimerais vraiment recadrer cela.
Merci.
Donc je comme reviens ça. Donc par rapport à notre public sur cette question-là de normes à respecter. Il était question des études. On a demandé, on a une perception à la cité que les études coûtent cher. En fait, cette perception n'est pas simplement à ceux qui n'ont pas étudié, mais généralement dans la population congolaise, même nos frères qui sont dans les affaires, les commerçants, les hommes sensés, ont difficile à payer les études. Mais si nous faisons toute proportion gardée, nous avons 16% qui revient dans l'ensemble de toutes les études. Pour un promoteur immobilier, je pense qu'il est utile de sécuriser son investissement en dépensant les 16% pour les études, toutes tendances confondues, que d'accepter qu'un bâtiment, après tant d'efforts, puisse s'écrouler. Voilà ce que je pensais dire par rapport à la perception que les études coûtent cher.
D'accord, je reviens. Nous parlons des normes à respecter dans la construction des ouvrages. Donc, tous ces débats-là... ça nous avance pas. Donc revenons, restons dans le sujet. Alors, je viens à vous, Monsieur Dieudonné Massanka. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui a été dit ici?
Oui, moi je pense que je vais revenir à ce que le président venait de dire tout à l'heure. Je pense que c'est pas important au jour d'aujourd'hui qu'on continue à avoir des débats autour des civils, des ingénieurs civils. Et je peux vous dire, si vous, aujourd'hui vous allez aux États-Unis, dans les pays anglophones, quand tu te présentes, tu dis je suis civil ingénieur, on comprend directement que c'est un constructeur. C'est tout. Ça n'existe pas les diplômes d'ingénieur civil dans le pays anglophone. Et donc, c'est un débat qui ne va pas nous profiter ni à nous qui sommes dans cette salle, encore moins à tous qui nous suivent. Et...
Alors maintenant, par rapport aux normes, normes à respecter, on a dit tout à l'heure que dans notre pays, les gens ne respectent pas les normes. On construit sans tenir compte des normes environnementales. Aujourd'hui, on tient aussi compte de l'environnement dans nos constructions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Et quelles sont ces normes environnementales dont il faut tenir compte dans la construction?
Monsieur le journaliste parlait des normes sur... pendant quelques minutes, ce sera difficile et très compliqué. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il est impensable de commencer un projet de construction sans faire appel au respect même de l'environnement. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que les techniques spéciales sont tellement importantes au jour d'aujourd'hui qu'il est... Je lance un appel, n'est-ce pas, à tous qui font de projets, et que ce soit les architectes comme les ingénieurs constructeurs, mais qui ne font pas appel à des spécialistes dans les techniques spéciales. Je reviens sur la protection de l'environnement. L'ingénieur en technique spéciale, c'est cet ingénieur-là qui est capable de pouvoir non seulement prendre soin de l'environnement extérieur de l'ouvrage, mais aussi de l'environnement intérieur de l'ouvrage. Je vais vous donner un exemple très simple. Entrez dans beaucoup de bâtiments ici à Kinshasa, vous allez constater une chose. Quand ils font de la climatisation, on fait que de la climatisation, mais on ne fait pas de la ventilation. Et ça, c'est un problème. Lorsque nous sommes dans cette pièce ici, comme nous sommes là présents, le taux de pollution, rien que la pollution de l'air qui est dans cette salle, l'air qui est dans cette salle est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Pourquoi?
On a plusieurs climatiseurs.
C'est ça l'erreur. Ça veut dire quoi? Nous nous retrouvons dans un environnement pollué, mais dont la température, parce que le climatiseur ne fait que rafraîchir, n'est-ce pas, la température de la pièce à une certaine valeur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle la ventilation mécanique, en faisant de l'apport extérieur de l'air, afin de pouvoir améliorer la qualité de vie. Ici, il s'agit de la qualité de vie qui revient effectivement encore une fois de plus au respect de l'environnement. Et ça, c'est très important. Et c'est le travail, n'est-ce pas, de l'ingénieur technique spécial que l'on néglige souvent chez nous.
D'accord. Monsieur Michel Oyungu.
Merci beaucoup. J'ai tellement eu beaucoup de questions que je pense que je n'aurai pas suffisamment du temps pour répondre. Mais néanmoins, je veux dire ceci. S'il y en a qui doutent de la compétence de l'ingénieur BTP, je vais leur informer que le pont Makelele, sur lequel vous roulez, est une œuvre de l'ingénieur BTP, l'ingénieur Kaniki. À cette époque-là, il était le directeur technique d'un bureau d'études belge d'ingénierie installé au Congo, qui s'appelait CADIC, Compagnie africaine des ingénieurs conseils. Donc, vous en avez une illustration. Le pont Makelele dont vous voulez. Je pense que c'est le pont le plus long de la ville. C'est ça une illustration, monsieur. De deux, il y a un collègue qui a posé une question sur l'ordre des ingénieurs. Nous avons lu cette loi qui a été élaborée par nos amis. Nous en sommes fiers et nous les félicitons pour la loi. Mais malheureusement, dans cette loi-là, il n'y a rien d'un ordre professionnel. Je vais vous donner seulement deux points. Quand vous établissez une loi pour réglementer une profession, vous devez définir premièrement les actes professionnels. Quels sont les actes pour lesquels telle catégorie de professionnels sont compétents et les autres ne le sont pas. Donc, d'un côté, vous devez faire en sorte que le non-professionnel n'accède pas à cette profession. Et de l'autre côté, vous devez définir quelles sont les compatibilités et les incompatibilités par rapport à ces actes professionnels-là. Mais quels sont les problèmes que nous avons dans notre pays en ce qui concerne les génies? Nous avons, je suis désolé, je respecte toute catégorie d'ingénieurs, j'en suis fier, tout le monde est important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme constat? Vous avez tel qui a fait la mécanique sur les routes, tel qui a fait la métallurgie sur les ponts, ça c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas d'un côté.
Oui, monsieur Michel, je m'en vais lire rapidement et attendez la question de Fiston Bakajika de Kinshasa. Il dit, le grand problème c'est que tout le monde peut faire tout lui-même. Architecte, ingénieur en construction, maçon. Et il saute sur des marchés sans faire des études. Donc, alors que le travail, vous êtes appelé à travailler en équipe, par exemple, pour
des constructions. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tout. D'ailleurs, il y a un conseil anglais qui dit « Jack of Latins ». Quand vous arrivez, vous voyez garage de toute marque de voiture, je vous conseillerais de ne pas aller là-dedans. Il n'y a pas un spécialiste en tout.
D'accord.
Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous avons des ingénieurs qui ne sont pas dans leur filière de formation. C'est ça le problème qu'on ne fait pas dire. Tu as été formé comme électromécanicien, je respecte bien cette filière, travaille dans l'électromécanique. Tu as été formé pour faire la recherche fondamentale et appliquée. Quel est le niveau, quel est le bilan que nous pouvons faire de recherche? Je me souviens encore de l'un de mes enseignants. Je ne sais pas si mes jeunes collègues là le connaissent très bien. Le docteur Bagula Chibabunya, Berthe qui était ancien à la faculté polytechnique, qui m'a donné le cours de mécanique de fluide en deuxième gradois, le cours de barrage en troisième gradois, et le cours d'hydraulique appliquée en premier ingénieur. Nous lui avons posé un jour la question de savoir quel est le bilan que la grande faculté peut nous faire en ce qui concerne la recherche fondamentale après 50 ans. Il n'y en a pas un seul.
D'accord. Alors, on va terminer cet entretien.
S'il vous plaît, monsieur Jody, je vais terminer en disant ceci.
Oui.
Je respecte bien les facultés polytechniques. Nous avons besoin de vous, mes chers amis. Nous voulons que la grande faculté polytechnique organise l'enseignement jusqu'au niveau des thèses. 50 ans après l'indépendance, aucun docteur n'est sorti de faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Ça, c'est déplorable.
Voilà, ça, c'est
déplorable.
Ça, ce n'est pas notre... Ça, ce n'est pas notre thème du jour. Nous revenons à notre sujet. On n'est pas dans ces débats d'école. Alors, revenons aux normes à respecter dans la construction. Alors, monsieur Claudien, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui exactement pour que ça change dans notre pays, qu'on ne puisse plus assister à ces drames des bâtiments qui s'écroulent et des pertes en vies humaines enregistrées?
Oui, merci. Dans les compétences qui sont les nôtres, nous rappelons encore une fois la responsabilité du gouvernement pour mettre en place les lois et les textes réglementaires. Mais pour ce qui concerne les professionnels, nous avons quand même une responsabilité d'utiliser, lorsque nous sommes sollicités, des matériaux locaux. Je pensais que réellement l'émission, on allait revenir sur le développement durable, mais qui en principe, l'objectif est d'utiliser donc nos ressources actuelles sans pour autant épuiser ou empiéter sur les ressources par rapport aux générations futures. Nous avons cette mission-là et ce devoir de préserver notre environnement par rapport au savoir-faire dans nos milieux. Et actuellement, la Société des architectes donc, du Congo s'efforce à aller en faisant une cartographie des matériaux locaux afin que nous puissions valoriser non seulement nos matériaux locaux et le savoir-faire. Et ainsi, nous aurons réellement des constructions qui répondent aux normes et qui sont adaptées à notre climat.
Bien. Monsieur Dieudonné, rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, qu'on n'assiste plus à ces drames des bâtiments qui s'écroulent dans notre pays?
Je pense que nous qui sommes des professionnels, nous avons la mission, n'est-ce pas, de rester d'abord professionnels, parce qu'il faudra quand même se dire des choses. Il y en a qui sont dans la profession, mais qui font des choses qui ne sont pas correctes. Donc, restons d'abord professionnels. Alors, nous devons faire un travail d'ensemble entre le professionnel du domaine et l'autorité afin de pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, des normes qui sont adaptées au Congo. Nous parlons de normes et depuis toute la durée de l'émission, nous ne parlons que de normes. Mais, messieurs les journalistes, je vous informe que ces normes, nous faisons toujours et alors toujours référence aux normes extérieures. Donc, il est important aujourd'hui
d'avoir des normes ici chez nous.
Exactement. Oui. Ingénieur civil comme ingénieur BTP comme tout le monde, ça ne sert à rien de discuter sur les titres et les universités. Mettons-nous ensemble et mettons nos propres normes adaptées au Congo.
Bien, merci à tous les intervenants, merci à Monsieur Claudien Moulimoa, merci à Dieudonné Massanka et merci aussi à Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Rapidement, juste en deux mots.
Merci beaucoup. Je voulais rassurer mon collègue juste à côté de Dieudonné qu'au niveau de l'Afrique, au mois de décembre ici, j'ai même reçu mon invitation pour le Kenya. Nous allons parler sur l'efficience énergétique dans le bâtiment. Il y aura une norme africaine qu'on appellera efficience énergétique dans le bâtiment. Mmh. Et cette norme, comme nous sommes, nous, membres de l'Organisation africaine de normalisation, sera adoptée dans notre Parlement. Et bientôt là, quand bien même nous n'avons pas de normes locales, nous aurons des normes africaines. Mais d'accord, nous devons déjà travailler, comme il a dit, sur les conditions spécifiques à notre pays.
D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci à vous d'avoir participé à cette première partie de l'émission. Alors, nous allons inviter rapidement un comédien. Il s'appelle STV. Il a un message. Il a quelque chose à nous dire pendant ces quelques minutes. STV. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'encourager? Merci de le faire.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Citroën avec Citroën, compatriote avec patriote, national avec nationaliste, gouvernement avec gouvernementaux, chers étudiants avec étudiantes. Bonjour. Bonne arrivée. Moi, c'est STV, sans terreur ni violence. Je suis né à l'hôpital central, maternité générale, ambulance nationale. J'ai fréquenté, j'ai étudié à l'école maternelle. Après l'école maternelle, je suis parti à l'école paternelle. Après l'école paternelle, j'ai fréquenté au complexe scolaire, institut, lycée, collège. Après, on m'a enrôlé à l'université. Arrivé à l'université, c'est là que ça a commencé. J'ai rencontré deux de mes amis avec qui on a fréquenté à l'université. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Chaque fois que nous on étudiait, et il ne faisait que corrompre. Étudier, il ne faisait que corrompre. Étudier, et il ne faisait que Alors, arrivé maintenant le jour de la collation, on appelle le jour de la collation des grands. Alors, comme vous-même vous connaissez la quantité de lauréats qui sont produits ce jour-là, le gouvernement a dit non. Il faut qu'on commande les conteneurs des super glue avec du colpatex. On a amené. On a commencé à nous coller. On nous a collé. On nous a collé. Moi, on m'a collé dans les arts. C'est pourquoi je suis devant vous ici en train de verbaliser. Bon entendeur? Allô? Deux de mes amis, un lui, a fini, on l'appelle ingénieur électricien, quelque chose comme ça. L'autre lui, il est sorti aussi ingénieur, mais pour construire les maisons. Allô. Quand son beau-frère avait beaucoup d'argent, il a dit que non. Mon beau-frère vient de terminer le problème des bâtiments. Il prend les chantiers, il lui donne. Allô. Lui aussi regarde les quantités de cagnottes ici, dit non, non. Tout ce que vous avez donné comme les normes ici, il a bafoué. Dis-moi, aller associer un ingénieur, je ne sais pas quoi, un géologue pour venir étudier les... Moi-même, j'ai les yeux, je vais étudier les quantités. Bon, c'est comme le foufou. C'est comme le foufou, il y a les quantités et les farines de manioc. Associées aux quantités de farine de maïs. Un peu tout imbibé dans l'eau. Ça ne peut pas donner du foufou avec de l'eau bouillante. Et ça, je n'ai pas les solutions. Quelqu'un ne peut pas manger et puis rassasier. Voilà. On lui recrutait pas son beau-frère. Il a commencé à construire. Il a sélectionné les jeunes du quartier qui ont l'habitude de construire les maisons à location qu'on appelle chambre et salon. Il commence à construire. Mais l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'après avoir eu ce marché, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne connaît pas que les qualités des maisons qu'il construit, c'est les maisons qui se transportent. Ça dit les maisons qui se transportent. Vous connaissez les maisons qui se transportent? Ça peut monter jusqu'à l'infini. Mais eux, ils sont habitués à construire les maisons par des parterres, taille basse. Alors, cette fois-ci, il faut construire une maison, les maisons qui se transportent. L'ossature, il ne connaît pas calculer. Conséquences. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Les conséquences, c'est au niveau du rond-point Gambela, victoire, les maisons qui est tombée. Alors, par nos chagrins associés aux familles éprouvées et aux cadavres ensevelis, que leur âme s'endort en paix. Nous associons alors nos chagrins pour les familles qui sont éprouvées. J'ai dit, et je vous remercie, mise en place.